Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux avec votre animatrice Arlette Farah, bien entourée comme d'habitude. Alors aujourd'hui, j'ai dans le studio Jamin Stouki. Bonjour Jamin.
Accueilli par cette musique style un peu africaine.
Oh yeah.
Saga Africa.
Il bouge son corps de rêve sur le siège, ça c'est pour être sympathique.
C'est ça, j'ai le rythme dans le sang mais une mauvaise circulation.
Ah, ça commence fort. Donc, Jamin s'occupe du courrier des auditeurs et il va nous parler de... On va le savoir dans un instant. C'est la surprise. Ensuite, en deuxième partie d'émission, nous recevrons le chercheur Marc Ayotte de l'UQAM. Et c'est sérieux ce que je vous dis, parce qu'il va nous parler de l'univers des fantômes, mais d'un point de vue scientifique. Ça ne va pas nous empêcher de rire parce que c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. Et
s'il
va
y a
nous
des choses
parler...
qui bougent pendant que tu as le truc, c'est normal. Alors.
C'est normal. Si la table bouge, c'est normal. Et des influences québécoises qui sont liées à ses croyances. Mmh. Mais toi, tu ne seras plus là puisque tu dois nous quitter comme tu es un homme absolument débordé.
Je n'irai pas à dire ça, mais j'ai une journée un peu complexe.
D'accord.
Jamais fera son fantôme, c'est tout.
C'est... Bien vu, exactement. Je vais faire comme David Copperfield, je vais disparaître.
Joli, ça commence fort. Alors, on écoute Tire le Coyote.
Et puis, on peut présenter aussi...
Ah, mais Jean-Sébastien Laliberté, toujours présenté après à la fin. On sait qu'il est là. Ce n'est pas sa chronique à lui, mais il participe avec son humour bien particulier.
Non, mais je tenais à le dire, parce que comme on parlait de fantômes et qu'il y a une voix tierce qui apparaissait, que
c'est
les
vrai.
Gens ne se disent pas.
Hein. C'est un fantôme.
Donc,
je reprends. On part avec Tire le Coyote qui nous chante « Poésie ignorance ».
J'aurais voulu savoir, à s'en parler d'amour, loin d'entendre les faibles, de quoi le monde est fier. J'aurais voulu saisir, au vol de nos tendresses, que plus on s'additionne, plus on arrive en moins. À une toute autre échelle, jusqu'où les galaxies, pour des milliards d'entre elles, s'étendent dans la nuit. J'aurais aimé toucher l'immensité de l'entre-toi et moi, en beaucoup moins petit, voir naître mon pays. Certains penseurs avancent, pris dans leur sablier, qu'au dur calendrier du fur et à mesure. Qu'importe la cadence, le temps nous est compté, sitôt fait d'arriver aveugle entre ses paumes. On sent irait mourir. Poésie, ignorance, du rien à l'infini, de bêtises en génie, mirage de disparu. Poésie, ignorance, nanos géants éternel, éphémère, vide et débordement, descente d'escalier. Ô cœur bat en retraite, ô cœur à réparer. Malgré l'odeur d'essence, je signerai mon passage, marqué par ton visage, noté d'aucun regret. certains penseurs avancent, pris dans leur sablier, qu'au dur calendrier du fur et à mesure. Qu'importe la cadence, le temps nous est compté, sitôt fait d'arriver, aveugle entre ses peaux, on s'en irait mourir.
Alors,
ça commence bien. Hein.
J'ai Germain Stucki maintenant.
On s'en irait mourir pour les fantômes. C'est
Est-ce
ça.
Que. Mais c'est pas encore lui. Pour l'instant, c'est toi et le courrier des lectrices ou des lecteurs. Je ne sais pas qui t'a écrit aujourd'hui.
Eh ben, on va le découvrir ensemble. Alors déjà, je suis content avec la chronique car j'ai doublé mon audience.
Ah ben bien deux, hein, c'est passé à deux.
C'est ça, exactement ce que j'allais dire. Tu vois, tu me connais bien, je suis passé à deux auditeurs, Arlette et moi. Oui, parce que notre fantôme, là, c'est une des premières fois qu'il est là. Enfin, on a le technicien aussi, mais...
Ça il... peut faire trois.
C'est ça, mais il ne nous écoute pas. Il est tout le temps sur Facebook, sur son smartphone. Donc... Oui, il ne te voit pas, je sais. Donc, aujourd'hui, un courrier intéressant et actuel. Accroche-toi, Arlette. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre aujourd'hui.
Je te remercie.
Oui, je sais. Et c'est une chronique aujourd'hui qui sera plutôt cérébrale.
Oh bah, well,
oui,
d'accord.
C'est possible. Oui, parce que comme hier, c'était la fête nationale belge, il faut que je récupère
ah
de tout
oui,
l'alcool que j'ai bu. Voilà, c'était notre Saint-Jean à nous hier.
Bien passé ?
Oui, très bien passé. On avait Jérémy Demey, qui est un Français, mais ça s'est super bien passé hier. On était très, très, très heureux. On a bien fêté ça à la fin.
D'accord.
Il manquait que le cornet de frites. Donc, oui, cérébral, je vous disais, c'est possible, Arlette. Ce ne sera pas que drôle, mais aussi. Hein. Alors, je ne sais pas, vous verrez vous-même. Alors, c'est un courrier de Dominique Fortin de Montréal. Je lis.
Dominique, homme ou femme ?
Je ne sais pas, ce n'est pas précisé.
Ah, d'accord.
Déjà là, il y a Anguille Souroche. Si c'est un homme, si c'est une femme, ce sera autre chose qu'une anguille. Donc, je vous écris, car je reçois depuis quelque temps des courriers bizarres. Les mots et les conjugaisons sont bizarres, remplis de points et d'accords qui se suivent. Je ne comprends rien en les lisant, même à haute voix. Je me suis renseigné et j'ai appris que cela s'appelait l'écriture inclusive. Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet, s'il vous plaît ? Et oui, la langue française est toujours en évolution, en mouvement, hein ? Les abréviations, les sigles, les onomatopées, les anglicismes, etc. Mais ça, c'est pour le côté positif de la chose, car cela enrichit cette merveilleuse langue qu'est la langue française. Mais il y a aussi des ratés, comme l'écriture SMS, dite phonétique. Pour gagner du temps, on écrit les mots comme on les prononce. D, M, 1 pour demain. Cune-cune pour quelqu'un. ASAP pour as soon as possible, qui veut dire le plus rapidement possible. Et j'en passe. Et là, on est obligé de lire le SMS à voix haute pour le comprendre, parce que c'est phonétique. Ce qui nous fait souvent passer pour des trisomiques sous acide. On essaye de lire ça. On comprend mieux pourquoi aujourd'hui, les jeunes ne savent pas écrire et conjuguer correctement. Mais revenons à l'écriture inclusive. Là aussi, une erreur de la langue française, à mon avis, hein, pour faire plaisir à certaines personnes, une minorité d'ailleurs, hein. Mais comme aujourd'hui, on donne plus de poids et de valeur à des minorités bruyantes, quitte à ce que ce soit stupide, exemple le cancel culture, plutôt qu'à la majorité silencieuse qui est plus censée, eh ben, on en arrive à des résultats absurdes, aberrants, dignes de X-Files. Prenons le sigle LGBTQ2++. À la base, c'était pour représenter la communauté gay, quel qu'il soit. Hein. Et on en arrive à devoir les représenter tous. Pour éviter les susceptibilités. Si continue, on va avoir toutes les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, C, on va en avoir 27. Parce qu'il y a énormément de variétés de personnes.
27 Wow, combien de lettres dans l'alphabet, jamais
27
26 En français, il y en a 26.
26. Mais lui, il en rajoute une.
Ben oui, parce que t'as les plus.
Ah, lui... d'accord.
Ah, ben oui.
Ah, j'ai cru que tu faisais XX.
C'est pour une autre communauté, effectivement. Mais tu vois, c'est là où ça amène. Et donc, je disais, il y a énormément de variétés de personnes, d'origine, de nationalité, d'orientation sexuelle, de genre, etc., etc., etc. On ne peut pas représenter tout le monde. C'est impossible. Il faut faire des choix pour faciliter la communication, j'entends. D'accord ? Car vivre en société, c'est avoir des droits, oui, mais c'est aussi faire des concessions pour pouvoir vivre tous ensemble, pas individuellement dans la société. Car à force de vouloir absolument exister, on en arrive à l'inverse. Tant que cela devient une cacophonie incompréhensible et au final, bah, personne n'est visible. Et où est la tolérance là-dedans ? Mais je m'égare du sujet, d'accord ? Revenons-en à la demande de Dominique. Inclusif, qu'est-ce que c'est d'abord ? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Moi, avant d'arriver au Québec, je ne le savais pas. Donc, l'écriture inclusive est née de la volonté de faire changer les mentalités sur l'égalité homme-femme par le langage. En français, la règle grammaticale est que le masculin l'emporte lorsqu'il y a des hommes et des femmes dans un groupe, d'accord ? C'est précisément ce point que l'écriture inclusive souhaite revisiter pour mettre le féminin à égalité avec le masculin. Comment écrire en écriture inclusive ? Eh ben, l'écriture inclusive définit trois nouvelles règles d'orthographe pour mettre en avant le féminin. Règle numéro 1. Mentionner par ordre alphabétique les termes au féminin et au masculin. Je m'explique. On disait donc classiquement « ils font du cinéma ». Et ce même s'il y a des hommes et des femmes dans le groupe, d'accord ? Dans l'écriture inclusive, on précise le genre dans le sujet par ordre alphabétique. Donc ici, on commence par le féminin. Elles et ils font du cinéma. Quant à l'accord, il se fait avec le sujet le plus proche du verbe. Voici un exemple. Les hommes et les femmes sont belles. Donc, pour arriver à une égalité, on propose une nouvelle inégalité. Donc en fait, on n'a rien résolu à mon sens.
Non.
Règle numéro 2. Utiliser un point au milieu pour marquer le genre des mots. Voici un exemple illustrant cette règle. Hein. À noter que ceci ne dispense pas d'ajouter la marque au pluriel. Donc, la candidat.e, les candidats.e.s, les chefs.fe.s, les commerçants.e.s. Alors attention, ce point au milieu n'est pas disponible sur les claviers. Apparemment, pour le faire apparaître, il faut taper une combinaison de touches au clavier, sauf que j'y suis pas arrivé, j'ai pas réussi. Alors je les ai rajoutés avec un stylo sur mon écran d'ordinateur en écrivant ma chronique, mais à l'impression, ça n'a pas marché non plus. Et donc j'ai dû effacer tous les points sur mon écran d'ordinateur avec du correcteur liquide. Ça fait que mon écran devient illisible. C'est mon côté belge, ça. Donc, de manière générale, il faut accorder en genre les noms de fonctions, grades, métiers et titres dans l'écriture inclusive. Exemple, les ambassadeurs.ris.s. Les auteurs.ris.s. OK ? Règle numéro 3, ne plus utiliser les majuscules de prestige à homme ou femme. L'objectif est de mettre en avant les deux genres. Par exemple, au lieu de dire les droits de l'homme, on dira les droits humains. En écriture inclusive, la traduction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen serait Déclaration des droits humains et du de la citoyenne citoyen.ne. Et c'est là où ça devient compliqué et incompréhensible. Parce que, d'ailleurs, dans l'usage, les Québécois et les Français sont divisés .e.s sur la question. Quant à l'avis de l'Académie française sur le sujet, elle y voit un péril mortel pour la langue française. Bref, vous aurez compris, ils ne recommandent pas vraiment cet usage. À noter également que le logiciel Word inclura dès l'an prochain une possibilité d'inclure l'écriture inclusive dans son module de correction orthographique. Bon, en fait, on marche sur la tête, on est d'accord, hein ? Mais le pire, et oui, le pire, il fallait s'y attendre, parce que là, c'est l'écriture inclusive. Maintenant, voici le parler inclusif. Voici un exemple. Un, une, ami.e est venu.e me parler des écoliers ES. Le la professeur.seuse est inquiet.quiète sur le niveau. Faut voir les délégués.e.s de le la classe. C'est important.tante d'en parler entre nous il.s, else.s car le la fille ou la le garçon indiscipliné.e.s sauvageon.on.jeune n'est.son pas en accord avec le la directeur.ris sur le les sujet.s.
C'est comme ça, je pense qu'on se foule un œil en essayant de lire ça trop vite.
Là, on se fait une entorse au cerveau, carrément. Vraiment pas facile. Et imaginez cela pour un spectacle. Il faudra fournir des aspirines à l'entrée des représentations à partir de maintenant. Donc, pour l'instant, on ne sait pas si le parler inclusif va faire avancer la langue française. Mais en tout cas, une chose est sûre, les bègues vont se sentir moins seuls.
Musique.
S'abandonnent quand ils sont tièdes, quand ils frissonnent. J'aime les mots qui nous laissent sans mots. J'aime l'aventure des jeux de mots, la peur des mots quand ils sont dits, car les mots dits sont parfois mal vus. J'aime les mots qu'on ose dire, ceux qu'on donne comme des cadeaux. Les mots simples qu'on pourrait retenir, de peur de gêner ou de peur d'en dire trop. J'aime les mots quand ils tanguent et dansent au rythme lent de mes romances. J'aime les mots qui foncent les moteurs, les mots fumants, les Morris, les mots qui tuent, sans mobile, ceux qui rient jaune, les mots viettes. Même les vieux mots un peu moribonds, mes meufs me donnent le frisson. J'aime beaucoup, j'adore et j'exige d'avoir le dernier mot.
Alors, Germain, ce qu'on ne t'a pas dit tout à l'heure, d'abord bravo, et puis on te regardait avec Jean-Sébastien faire ta lecture, et j'avoue que ça ne devait pas être super facile.
Non.
Non, mais ça devient un parcours du combattant.
On est habitué, normalement, quand il y a un point, c'est à la fin de la phrase. Donc, les intonations, les coupures, on s'attend, on arrête là. Non, on n'arrête pas là. Le mot n'arrête pas là. La phrase n'est vraiment pas terminée. Ça doit être un effort soutenu. Là,
Et puis, c'est compliqué parce que, ouais. Tu vois, quand tu fais la, le, vu que tu ne dois pas avoir de genre, puis si tu mets du pluriel, ça fait les, puis tu fais candidat.e.s, ça devient... Déjà, à parler, ben, c'est ça que je voulais amener, en fait. Mm-hmm. Ça devient complètement stupide, hein, comme le coup du truc phonétique. Mais déjà, à lire, moi, je reçois des courriels qui sont... je ne les lis même plus, parce que je ne comprends pas. Ça me fait perdre un temps fou. La langue française est belle, elle est déjà un peu complexe, on va dire, comparée...
Oui, parce que je dois avouer franchement que je suis contente d'être née du bon côté, parce qu'il fallait que je l'apprenne, je trouverais ça compliqué.
Le temps, bon... Il y a des règles, mais globalement, on s'en sort. Je veux dire, ce serait comparé à l'anglais qui est beaucoup plus simple. Mais là, on est en train de, comme tu disais là, hors antenne, on est en train encore de rendre plus cette langue, comment dire, moins enviable. On a moins envie, du coup, parce que non, c'est trop compliqué.
Non, on rajoute encore plus de contraintes à la compréhension. Déjà, comme on dit, c'est long à apprendre. Les règles, c'est long à apprendre. Ben, le parler, c'est une chose, mais le lire et l'écrire, c'est pas aussi facile pour tout le monde. Donc, on rajoute des embûches. Et puis, je disais justement hors micro
jusqu'à
que j'ai...
Jusqu'à ce qu'on s'en serve plus?
Oui, ben là, espérons qu'on n'en viendra pas là, mais c'est ça, c'est un autre risque aussi. Cette mode d'écriture phonétique-là qui, oui, peut nous faire gagner du temps lorsqu'on l'écrit, mais n'en fait vraiment pas gagner à l'autre bout, à la personne qui doit le lire et le déchiffrer. J'ai déjà eu une lettre qui avait été écrite de façon phonétique, comme quelqu'un écrit un message texte, sans ponctuation. Et puis, tous les QU étaient remplacés par des K pour le son K.
Ah oui.
Et ainsi de suite. Pour, donc, ça devenait... Essayer de lire, de déchiffrer ça, c'est une chose. Et après ça, de comprendre l'intention de la personne qui l'a écrit, là, on était perdu.
Mais non, mais tu perds du temps. Parce que la personne qui l'écrit, ben, phonétiquement, mais elle doit trouver les mots parce qu'ils n'existent pas. Donc, elle n'écrit pas comme moi, je dis « bonjour, bienvenue ». Tu l'écris, c'est facilement. Mm-hmm. Là, c'est « bonjour », donc « BJR ». Tu dois réfléchir à tout ça parce que ce n'est pas une
bah orthographe pour qui existe. Pour certains, maintenant, ça devient un automatisme.
Ouais, mais quand tu fais un texto, ça va, oui. Mais une lettre, donc il y a déjà ça. Donc, il doit se relire pour être sûr que c'est bien compréhensible. Et puis, comme tu dis après, nous, derrière, donc en fait, apprends à écrire le français normalement. Et je préfère avoir quelqu'un qui me fait des fautes d'orthographe, mais qui m'écrit correctement, que quelqu'un qui soit en phonétique. Je me bats avec mes enfants avec ça, parce qu'elles commencent, je dis non. T'es une fille d'artiste, là. T'as une contrainte, d'accord, en plus francophone, ok. Si tu vas apprendre Becherel. J'ai ramené mon Becherel des années 80 quand j'étais au secondaire. Je lui ai mis ça parce qu'elle savait pas c'est quoi, ça. C'est un livre, tu vois. Et je lui ai
tu
mis ça.
Tu peux tourner des pages.
Exactement.
Comme dirait la blague, c'est que
t'as... Enfin, la chronique, c'est comme un... Parce que je veux un qu'elle écran. Puisse... Je dis, après, que tu écris avec tes copains, que tu fais des trucs phonétiques, tu sais, mais à la base, connaissez la base. Tu vois, c'est comme si tu veux conduire, tu connais pas le code de la route. Non, tu connais d'abord le code de la route, puis tu vas sur la route. Tu vas pas travailler à l'envers.
Quoi qu'il y en a des fois, on se pose la question.
Relançons pas le débat, s'il te plaît. Hein.
En tout cas, c'était excellent. Merci beaucoup.
Je continue sur ma lancée.
J'en ai appris aussi et j'espère que...
T'as tout compris
Dominique...
d'abord
parce que... Non, oui, quand même, j'ai tout compris parce que j'ai eu affaire à ce genre d'écriture. Donc,
mais on a tous affaire hein, de plus en plus.
Oui.
Comment dirais-je ? Il y a quelque chose en moi qui est heureuse qu'on mette de l'égalité
une
un
parité,
petit peu partout.
Tout à fait.
J'aime ça. Maintenant, le fait qu'on en devienne à des choses ridicules comme « elle et ils sont belles », c'est...
Voilà,
c'est...
l'idée est bonne...
Elle est mal exploitée.
Mais pas dans le langage.
Oui.
Mais, parce qu'ils disent, oui, mais c'est comme ça qu'on parle tous les jours, qu'on va amener l'égalité. Non, mais l'égalité dans la vie.
Et
mais,
puis elle
mais
doit
plus
être dans les faits.
Mais une égalité d'hommes-femmes dans la politique, dans les entreprises,
oui.
Mais les salaires égaux. Mais c'est là. Et après, le langage viendra s'il faut. Mais à
et
la
puis,
base, c'est dans la société que l'on doit se battre.
Dans
c'est pas
les
en faisant
actions.
Ça.
Mesdames, messieurs, ce sont dans les actions que l'on fait les choses. Pas dans l'écriture. En pause, on fait sur ce musique.
C'est parti.
I've always known since I was a young boy in this world. Everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be. And lies, they only stop me from feeling free. Whoa, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. I have, the more I am a happy man. Now my mother told me always keep your head on, because some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not
afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yeah. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Oh, like a hobo.
Alors, on vient d'entendre Charlie Winston qui nous chantait « Like a Hobo ». Voilà. Maintenant, on va dire au revoir à Jamin Stocky parce qu'il a beaucoup de travail. Mais la semaine prochaine, il essaiera de rester un petit peu plus longtemps.
Oui.
Alors, il va rater l'entrevue avec notre chercheur Marc Ayotte et
avec les
fantômes
eux-mêmes.
Voilà, mais je vous fais confiance. Je suis présent, mais serai présent par l'esprit.
Voilà, j'étais sûre que tu allais avoir des questions intelligentes pour ça, mais maintenant, je sais que c'est Jean-Sébastien qui va avoir les questions intelligentes.
Je lui donne le bâton.
Merci. Est-ce que les questions sont écrites sur le bâton?
Oui, tout à fait.
Super.
Sinon, tu communiques avec moi par l'esprit. D'accord. Si tu commences à avoir bougé les tables, etc., c'est normal.
Vous savez quoi? Mes chers auditrices et auditeurs, ils me font peur tous les deux.
Oui.
Finalement, je ne sais pas si je ne devrais pas changer la journée de Jamin pour changer de technicien, mais même avec l'autre, ce serait pareil avec Mathieu. Donc, de toute façon, c'est foutu.
Ah bah, mais quand il y a des atomes crochus et qu'il y a des affinités, hein, c'est...
Mais oui,
l'autre
c'est
solution,
pas...
Arlette, c'est de venir derrière la console toi-même et de faire la technique.
Ouh, je ne suis pas sûr certain que les pitons soient bien envoyés au bon moment, sans vouloir être...
Je ne suis pas sûr que ça marche, mais quoi bon. Que...
On
ne sait jamais. Merci, Jamin.
Avec plaisir.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bonne fin d'émission.
Restez
à tous.
Restez avec nous à tous. Hein. On va parler fantômes dans un instant. À tout de suite.
Daily Faramineux avec votre animatrice Arlette Farah.
Chercher le rubis dans des potoirs, comme le soleil dans...
Alors, pour faire une entrée en fanfare à notre invité, le chercheur Marc Caillotte, nous venons d'écouter Canaille, pardon, qui nous chantait « Histoire de fantômes ». Allô Marc, bonjour.
Salut, ça va bien?
Oui, je suis ravie qu'on se reparle de nouveau. Et puis Marc, alors, va nous parler de fantômes. Et là, j'avais un autre chroniqueur qui était là en première partie, Marc, il faut que tu le saches, et qui était... qui pouvait pas rester avec nous. Donc, il nous a dit qu'il laissait son fantôme sur place pour parler avec toi aussi.
Ah,
voilà.
C'est ça.
Alors, de quoi on parle? De l'univers des fantômes, des influences québécoises qui sont liées à ces croyances, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, là, j'ai décidé aujourd'hui qu'on allait regarder en fait, le fantôme et regarder comment il se construit ici au Québec, puis de quelle façon, où est-ce qu'il va aller chercher ses influences, où est-ce qu'il va aller chercher ses informations, comment les gens vont l'étudier, vont le regarder, puis pourquoi il va se transformer, il va devenir particulièrement là, étrange dans l'univers québécois.
Bon, vas-y, on t'écoute.
Donc, je pense que si on veut le comprendre, là, ce fantôme-là, il faut qu'on se rappelle que le Québec s'est basé sur la matrice religieuse du christianisme. On regarde l'origine du Québec, puis vraiment le christianisme était présent, puis dès lors, dans plusieurs versets bibliques, on mentionne que le fantôme, c'est quelque chose qui est négatif. En fait, la Bible ne se gênera pas de dire que ceux qui communiquent avec les fantômes mériteraient même d'être lapidés, qui est quand même assez percutant. Donc, si on prend cette origine-là et qu'on s'imagine le discours qui était employé à l'époque pour parler des fantômes, on peut se dire déjà que c'était pas nécessairement positif. Par contre, s'il y a une crainte liée aux fantômes, qu'on en parle, automatiquement, ça veut dire que l'Église ne nie pas l'existence des fantômes, parce qu'elle dit « tu peux pas parler avec ces fantômes-là, donc ces fantômes-là existent ». Donc, on a déjà ce genre de dichotomie-là qui est présente au départ, qui est quand même particulière.
Je vais te dire que Jean-Sébastien Laliberté, qui est notre technicien et qui participe à l'émission, ouvre des grands yeux en t'écoutant. Là, il dit qu'est-ce qu'il dit?
Mais je trouve ça particulier, justement, que l'Église, d'un côté, ne veut pas qu'on parle avec les fantômes, les esprits, et de l'autre côté, il y a quand même...
Une certaine reconnaissance.
Il y a Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, en anglais, qu'on appelle le Holy Ghost. Donc, on peut communiquer avec ces esprits-là qui sont à la base de la religion, mais on ne peut pas communiquer avec les autres esprits parce que ça, c'est mal. C'est un effet particulier.
Mais littéralement, ce qui est écrit, c'est si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera et leur sang retombera sur eux. Ça, c'est Lévitique 20, 27. Donc, je pense que la précision du mort, là, oui, Jésus, OK, mais Jésus était mort. Oui. Donc, la précision du mort va rajouter là, cette problématique-là. Fait que, on regarde ça. Déjà, on voit un paysage qui est un petit peu là, ténébreux. Là, leur sang retombera sur eux. C'est pas très positif. Et suite à ça, ce qui vient encore plus nourrir cette crainte-là sur la mort, c'est vraiment le folklore là, québécois qui vient englober cette partie-là puis qui vient la transformer en histoire de peur. C'est le folklore québécois va mentionner avec des histoires comme la maison hantée, le loup-garou.
Mm-hmm. Marc, quand tu dis le folklore québécois, c'est le folklore de partout, parce que dans tous les pays, quand on raconte aux enfants des histoires de fantômes, ils commencent déjà à avoir peur dans leur gène avant d'avoir entendu l'histoire.
Ouais, j'imagine que dès l'enfance, c'est la mort. Je pense que c'est le concept de la mort là, qui vient. Moi, j'ai lu beaucoup d'Honoré Beaugrand, Louis Fréchette. Puis vraiment, tu sais, c'est premièrement, le fantôme est présent. Il est présent, il est méchant. Et en plus de ça, il est toujours lié avec la religion. Un prêtre qui le voit dans une église. Il est toujours là. Il est terrifiant. Il va rester. Il va toujours faire ce type de phénomène dangereux. Là. Il ne sera jamais vu comme un esprit positif, quelque chose qui peut nous emmener à trouver une sortie, comme le faisaient les fantômes là, dans la Grèce antique. Donc, il y a vraiment cette transformation-là qui va se faire au Québec, mais qui va encore plus être influencée par les années 70. Là, c'est spécial de réaliser ça, mais il y a une étude qui a été faite là, au début des années 2000 qui démontre qu'après la sortie du film Poltergeist, que vous l'avez dit. Donc, après la sortie de ce film-là, la hausse de croyance aux fantômes s'est faite environ 38% au Canada. Donc, même au Canada, il y a une hausse gigantesque qui se fait sur la croissance à cause d'un film. Puis même qu'à cause de ce film-là, on remarque qu'il y a même une genre de légende autour du fantôme, une science du fantôme qui va se construire. Donc, les gens vont utiliser, ah oui, les fantômes apparaissent dans les télévisions, ils vont faire bouger des choses à cause de l'influence du film, qui est un film américain d'ailleurs, qui est loin de nous et qui ne parle pas d'un cas vécu du tout. Là. Donc, une science du fantôme va commencer à se faire à ce moment-là.
Mais le cinéma nous a envoyé des fantômes fort sympathiques aussi.
Oui, oui, c'est vrai. Avec le je ne sais plus le nom du film, le couple, là, oui. La femme qui est en amour avec un fantôme.
Oui, c'est un fantôme d'amour.
Oui,
oui.
C'est beau quand même.
Oui, c'est beau. Mais il y a Casper aussi, qui est un fantôme amical, là, qui oui. est quand même gentil. Donc, on remarque qu'il y a une certaine construction qui commence à se faire à ce moment-là. Et je me suis demandé, mais aujourd'hui, c'est Poltergeist, ça fait relativement longtemps là, que ça a été fait. Puis aujourd'hui, il y a encore là, des médias qui continuent à nous influencer beaucoup. Quand moi, j'étais plus jeune, là, il y avait une émission à la télévision qui était super populaire, qui s'appelait Hantise. Je sais pas si...
Moi, j'étais pas là, mais Jean-Sébastien, tu connais?
Non? Ça me dit vaguement... je la replace pas, mais...
Alors, qu'est-ce que c'était, cette émission?
C'était des pseudo-documentaires où on avait une famille qui racontait, en fait, leur histoire de fantômes. Et il y avait une mise en scène avec des acteurs qui montraient comment ça se passait. Et je me rappelle que l'émission, elle était centrée sur l'horreur. C'est vraiment, vraiment là, centrée sur...
Ah oui.
Ça va pas bien. À chaque fois qu'il y avait une histoire de fantôme, ça finissait qu'il y avait des démons dans le plafond puis que tout le monde paniquait puis il fallait qu'ils déménagent. C'est vraiment à la Amityville, ce genre de phénomène-là. Et c'est comme si tout le monde vivait ça. Tout le monde vivait ça. Puis à chaque fois qu'on vivait ça, oh mon Dieu, c'est donc dramatique, c'est donc effrayant. Vous voulez pas avoir des fantômes chez vous. Donc, et moi, je me suis dit, j'étais quand même assez jeune. Ça passait à 3 heures. Là, en revenant de l'école, on allait écouter ça. Fait on avait cette image, on avait cet environnement-là.
Ben, dis donc.
Terrifiant. Puis on le voyait, nous autres aussi, la nuit, parce que toute cette histoire-là nous restait en tête.
Ben, c'est sûr.
C'est-à-dire que, oui, c'est quand même relativement spécial. Là.
Ouais.
Puis tu parlais de ces histoires-là avec les gens autour qui avaient écouté aussi ces choses-là. Puis ça mettait un environnement qui était lié à l'horreur là, avec le fantôme.
Oui, puis l'histoire qui est racontée par quelqu'un d'autre, liée autrement, je te laisse imaginer que ça fait peur.
Oui, ça fait peur. Et je crois que ce sont ces médias-là qui ont formé là, vraiment là, cette ambiance-là autour du fantôme. Mais quand on l'observe, ce fantôme, on le regarde, puis on lit à travers l'histoire de son apparition avant le christianisme. On se demande, la coupure, elle est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a coupé le fantôme qui l'a rendu si dramatique que ça? Parce que pas loin de nous, en Europe, en fait, en Irlande, je pense que je l'avais déjà mentionné dans la dernière fois, le fantôme n'est pas vu du tout comme étant négatif. Ou en Norvège encore.
Mais
même
non,
qu'au contraire, il est excessivement positif.
Mais peut-être que des anciens peuples avaient l'habitude de parler, de vivre avec des fantômes, c'est-à-dire avec des gens qui étaient partis, puis de les retrouver d'une certaine façon. Et puis c'est peut-être le christianisme qui a amené cette coupure en disant ben non, on n'y croit plus, on fait pas, il faut pas, ou on va les rendre méchants pour faire peur. Tu sais, la peur, ça fait faire beaucoup de choses aux gens, hein, on le sait. Donc peut-être que la peur des fantômes a été mise pour qu'on arrête d'en parler, de croire qu'ils existaient.
Ouais.
Qui n'empêche pas l'existence de certains, on ne sait jamais. Je vois le fauteuil bouger en face de moi, je ne suis même pas sûre que ça ne marche. Marc, on va faire une petite pause musicale et puis on revient avec toi tout de suite après.
Parfait.
Reste avec nous. Et on part.
On part.
Sur les machines, on dessine un cœur. qui bat, comme je me bats, maman. Si le monde est mon mobile, mon cœur pour le moment est comme le monde, maman. Et le monde est fragile. Et mon cœur est fragile.
Alors, on vient d'écouter Maëlle qui chantait « Toutes les machines ont un cœur ». Oui, 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 nous sommes des machines. Alors, Marc, tu es toujours là ?
Oui, bien sûr.
Alors, on continue avec toi.
Oui, donc
on était parti sur le fait qu'au Québec, pour revenir là-dessus, donc au Québec, on en parlait toujours avec beaucoup de frayeur, beaucoup de peur, ce qui n'était pas le cas dans tous les pays du monde, loin de là.
Non, c'est
ça. Pour
sûr.
Le fantôme.
Puis c'est vrai, vous avez mentionné en fait que notre relation, elle est différente. Par exemple, en Irlande, à l'époque, on mettait les morts en dessous du lit dans nos chambres. Donc, le mort était enterré directement en dessous du lit. On vivait avec nos ancêtres. Je pense qu'on avait beaucoup plus de proximité avec le concept de la mort qu'ici, où on enterre le plus loin possible. Puis on essaie là, de s'éloigner de ça suite au rituel funéraire.
Oui, non, ça a inspiré beaucoup de livres et de films d'horreur, ça, justement, les maisons qui sont sur ouais. des cimetières et justement, d'être par-dessus, de vivre par-dessus des morts enterrés, là, c'est... ici, on est plus habitué à avoir peur de ça.
Oui, vraiment. Donc, dans mes recherches précises, je suis allé chez des gens, j'allais rencontrer des personnes qui mentionnaient vivre des situations avec des fantômes, puis... il y a toujours une question que je pose au début de la rencontre. Je leur demande des noms de films. Avez-vous tel film? Avez-vous tel film? Puis, normalement, si on me répond oui, surtout, il y a un univers là, de films présentement qui s'appelle La Conjuration, là, qui est inspiré par Ed et Lauren Warren, qui sont deux démonologistes là, populaires dans les années 80.
D'accord.
Et il y a un univers de films qui entoure leurs histoires. Puis, je pose des questions souvent en lien avec ce film-là. Souvent, les gens vont me dire « oui, on a vu le film ». Puis quand on observe les phénomènes qui se passent, ce qui va arriver souvent, c'est que je vais avoir des bribes du film. Par exemple, tu vas dans une maison à un moment donné, puis je leur demande « qu'est-ce qui se passe ?» Puis on me parle d'une apparition avec le visage rouge à 3h du matin avec une odeur de soufre. Et dans le film « La Conjuration », il y a une apparition avec un visage rouge, une odeur de soufre à 3h du matin.
Ouais.
C'est ce que je vais avoir souvent, puis c'est particulier. C'est comme si les films influençaient tellement l'univers et la science du fantôme qu'on reprenait ces éléments-là puis on les recrachait sur nos expériences à nous.
Mais écoute, Marc, quand on voit des films qui nous effraient un peu, qui nous font peur ou qui nous font trop... enfin, qui nous font marcher à côté de nos pompes, j'ai envie de dire, on en rêve la nuit, hein? Donc,
oui.
Pourquoi pas? Et on a l'impression que c'est réel quand on fait le rêve ou le cauchemar, je sais pas comment il faut l'appeler.
Oui, ça dépend toujours de l'expérience. Il y en a qui, et honnêtement, il y en a qui aussi veulent ça. Je suis pas en train de dire qu'ils vont créer cet univers-là de façon voulue, sauf qu'inconsciemment, de vivre des expériences paranormales, c'est aussi de vivre des choses uniques que nous seuls on vit. C'est un événement, une expérience paranormale. C'est quelque chose qui va changer notre conception du temps et de l'espace. Parce que là, on est dans notre maison sécuritaire, il y a quelque chose avec nous. On considère qu'il y a la vie, il y a la mort. Mais là, il y a un fantôme. Donc, il y a plus que la vie, il y a plus que la mort. Et ça c'est tellement un événement particulier que certaines personnes veulent vraiment vivre ça pour vivre quelque chose d'unique dans leur vie qui parfois peut sembler un petit peu moins intéressante. Je me suis abonné à beaucoup de groupes aussi sur les chasseurs de fantômes, puis ce genre de trucs-là sur Facebook, dont un groupe qui s'appelle Spotted Histoire Paranormale. Puis ce qui est particulier, c'est que souvent, il y a des gens qui vont raconter des histoires anodines. Ils vont dire, par exemple, « Ah, la nuit, je sens un poids sur mon torse. » Et il demande de l'aide, savoir qu'est-ce que c'est qui se passe dans cette nuit-là. Puis les commentaires des gens, c'est toujours « Ah ben, t'as un démon dans ta chambre. Ah ben, t'as 6 enfants qui te poursuivent. » Quand tu sais, c'est toujours méga dramatique. Il n'y a jamais de réponse comme ouais, « mais peut-être que tes grands-parents sont présents pour... »
C'est ça.
Tu sais, c'est jamais ça. C'est toujours excessivement dangereux, terrifiant.
Et démoniaque, parce que le fantôme n'est pas obligatoirement un démon.
Non, puis cet univers-là, elle est encouragée. C'est relativement dommage parce que dans mes réunions, une seule fois parmi beaucoup, beaucoup de rencontres, j'ai eu quelque chose de positif. Mais le reste du temps, c'était toujours « Ah, aide-moi, j'ai peur, il y a un fantôme dans mon, dans mon salon. J'ai besoin de ton aide. Moi, je suis pas un médium, je suis un chercheur. » Donc, cette référence-là, elle est quand même difficile à absorber quand on fait ces recherches-là. Mais ça nous fait réaliser vraiment qu'il y a quelque chose qui devrait changer. Puis je souhaite que peut-être ces médias-là, un jour, montrent un plus grand éventail de possibilités de fantômes que juste l'histoire d'horreur, l'Halloween, puis le méchant fantôme qui possède.
Oui, puis qu'on arrête de faire peur aux enfants parce que on ne sait même pas encore tout ce qui existe. Je veux dire, tout ce qui existe, tout ce qui est en vie ou qui est peut-être dans d'autres mondes, on ne sait pas. Il y a plein de choses. Il y a des histoires qui se racontent. Elles sont peut-être pas vraies, elles le sont peut-être. Ici, il faut qu'on prouve que les choses sont là, mais c'est pas vrai. Il y a des choses qu'on ignore, on peut pas les prouver.
Oui. Puis le chercheur est gêné aussi d'en parler si jamais il voit des choses. Il est gêné d'en parler à la communauté scientifique. Sigmund Freud, là, qui est un psychanalyste, avait écrit une lettre à son disciple Carl Jung. À un moment donné, Carl Jung, il trippait un peu sur les fantômes aussi là, dans ses recherches, sa famille de médium, donc il y avait cette influence-là. Puis il y a une lettre qui a été retrouvée que Freud a renvoyée à Jung qui dit « Si j'avais su tout ce que je sais maintenant sur l'occultisme, j'aurais donné ma vie à celle-ci. » Donc, cette mention-là, il l'a pas dit à la communauté scientifique parce que ça aurait mal passé, mais il l'a quand même écrit personnellement à son disciple pour lui dire « Ok, regarde ce que tu m'as montré, ce que tu m'as enseigné, j'y crois. » Donc, il y a cet engouement-là quand même qui est présent. C'est juste que on a peur d'en parler. Il y a une chercheuse présentement qui travaille, elle, sur les fantômes dans les bunkers en Angleterre de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui.
Puis elle est allée rencontrer un panel de scientifiques en anthropologie pour leur parler de ses découvertes. Puis le maître de la panel s'est mis à rire d'elle puis a dit « Ben là, voyons donc, on est dans un panel scientifique, on va pas vraiment parler de fantômes aujourd'hui. » Donc, même cet aspect-là, elle est difficile à emmener. Il faut toujours faire une introduction gigantesque avant de parler du sujet, parce que sinon, il y a toujours ce recul-là, puis c'est genre de « Ouais, mais t'es sûr que tu veux parler de ça? T'es sûr que c'est scientifique? » Ça va te faire moquer de toi, parce qu'il y a ces univers médiatiques-là qui le montrent comme étant farfelu. C'est des fantômes avec des draps blancs sur leur tête, là, qui se promènent, qui font « Ouh! » avec des bruits de chaîne. Et c'est ce qu'on a. Il y a beaucoup plus que ça. Il faudrait vraiment mettre une ouverture pour plus que ça, pour montrer aux gens que, écoute, c'est depuis des lustres là, qu'on en parle. C'est pas juste Poltergeist et Exorciste qui est parti de ce mouvement du fantôme-là. Il y a plus que ça.
D'accord.
Et c'est ce qu'on essaie de faire là, présentement aussi en recherche, là, du moins avec mes collègues.
Ben, alors ça c'est fort. Alors, de toute façon, on arrive à la fin de l'entrevue, Marc. Désolé. Ah. C'est déjà fini, mais par contre, je te propose de te réinviter au mois d'août et même de t'inviter à venir en studio. Comme ça, on te verra en vrai, on n'aura pas que le fantôme de ta voix. Et puis, merci beaucoup, c'est super passionnant. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup et puis je te trouve excellent là-dedans. Donc, bonne continuation, puis on se recontacte pour que tu viennes encore nous en parler. D'accord.
Mais merci beaucoup. Passe une belle journée.
Toi aussi. Au revoir. Bye. Alors, on part en musique avec Christophe Maé qui nous chante « Il y a du soleil ». aimez Christophe Maé, vous aimez l'entendre chanter, vous trouvez qu'il ne vient pas assez souvent au Québec, eh bien Jean-Sébastien Laliberté peut le remplacer, je l'ai entendu chanter. Il peut venir sur scène chez vous et il vous coûtera moins cher aussi. Il n'y aura pas le voyage.
Arlette, donc, oui? Est-ce que tu as vu le film Coco? Le film de Disney, le film d'animation de Pixar,
non, Coco, non.
Qui est paru en 2017, c'est un film sur, qui se passe au Mexique avec le Dia del Muerte, le jour des morts. Et on voit la relation qu'il y a qu'on a au Mexique et dans certains pays latinos avec les morts. Et que le jour des morts, bien, il faut faire des ofrendas, il faut que les fantômes puissent traverser, les esprits puissent traverser,
c'est
revenir
beau.
Là. Et de toute l'importance de ça, et ça me faisait tellement penser à ça avec Marc, à quel point ici, on en a peur, c'est diabolique et tout ça. Et là-bas, c'est tellement beau. Et c'est un film très visuellement intéressant à voir.
On va aller au Mexique tous ensemble.
Bonne idée.
À vous toutes et vous tous d'avoir assisté à cette émission. Merci beaucoup. Jean-Sébastien Laliberté,
n'importe quoi.
Merci à Marc Ayotte d'avoir été avec nous. Merci à Germain Stouki, évidemment. Et puis, on se retrouve demain pour une autre aventure. Et j'ai le temps d'une phrase ou pas?
Oh oui.
Alors, j'ai le temps de vous dire, Joseph Joubert disait, le but de l'argumentation ou de la discussion ne devrait pas être la victoire, mais le progrès. Et je trouve que ça finit bien cette émission. Allez, au revoir à tous. À demain.